On parle beaucoup du conflit en Iran, les résultats est une hausse du pétrole, des tensions géopolitiques et des manchettes parfois alarmistes. Mais pour l'angle boursier, c'est pas là que se joue l'essentiel. Dans mon commentaire cette semaine, je prends un pas de recul pour expliquer ce qui se transforme réellement en ce moment pour le point de vue économique. Un changement plus discret, mais beaucoup plus structurant pour les marchés et vos placements. On va parler de chaîne d'approvisionnement, de commerce mondial, dépendance invisible et surtout de ce que ça veut dire pour les entreprises que vous détenez dans votre portefeuille. Bonne écoute! On parle évidemment des tensions géopolitiques entre l'Iran et le gouvernement américain et on parle depuis plusieurs semaines du détroit d'Hormuz. Puis, est-ce que c'est du bruit ce qui se passe ou il y a un changement de régime? Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est mercredi le 22 avril. Puis, tout peut changer, il peut y avoir une entente comme une escalade, mais ce point névralgique-là, pourquoi ça peut avoir des conséquences permanentes, même dans une situation de règlement de conflit? Bien, c'est ce qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Pourquoi je parle de ça? C'est qu'en général, le marché réagit vite. Les manchettes vont vite. L'actualité réagit à ce qui se passe, surtout lorsqu'on parle de politique ou de tensions géopolitiques. Mais souvent, c'est superficiel. Pourquoi je dis ça? C'est que dès qu'il y a un enjeu géopolitique, on va voir le prix du baril augmenter immédiatement. Les marchés vont être volatiles. Puis, on va mettre la loupe sur cet enjeu-là au niveau des médias, puis on va me parler de tous les potentiels risques, les scénarios, puis une tendance qui est négative. Par contre, l'inverse s'applique. C'est souvent lorsqu'il y a un sentiment que les choses se résolvent, bien, les matières premières, le baril de pétrole baisse, le marché se calme vite, puis le fil de nouvelles continue son actualité sur d'autres priorités. Et on oublie et on se dit, bon, c'est derrière nous. Mais des fois, ces zones de choc-là, ont des conséquences à long terme. Puis, ce qui se passe actuellement, bien, c'est là qu'il faut l'étudier sur un autre angle. Pourquoi que le détroit d'Hormuz, c'est critique? Bien, en ce moment, on sait, c'est 20 % du pétrole qui transite par ce détroit. Puis, surtout, l'Europe, l'Asie ont vraiment besoin de ça. Puis, il n'y a pas d'alternative. Donc, il n'y a pas d'autre moyen d'éviter ce transit-là. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas limité au baril de pétrole, parce que souvent, on va regarder une volatilité du pétrole, mais surtout aussi, c'est du gaz naturel liquéfié. Les inventaires en Europe sont à peu près à 30 % de leurs réserves. Donc, on le voit, là, il y a des manchettes que peut-être il y a des vols en Europe qui pourraient être annulés parce que le carburant est limité. On parle aussi d'aluminium, de minéraux critiques, d'engrais, de chaînes industrielles qui dépendent de ça. Puis tout ça, ça a des ramifications parce que si le coût du pétrole augmente, le coût du transport augmente, ça peut impacter même le panier d'épicerie chez certains détaillants en Europe ou en Asie. Puis, ce qui se passe actuellement devant cette tension-là, bien, il y a déjà des gouvernements. Puis, on le voit, depuis le COVID, on parle de reshoring, de ramener le manufacturier de proximité. Avec les tensions géopolitiques, on parle de remilitariser le monde entier. Donc, ça, c'est des dépenses d'État. Et là, actuellement, même dans cette zone-là, pour ceux qui regardent notre vidéo, on voit le détroit d'Hormuz. Bien là, on a déjà des pipelines qui sont actifs, qui permettent d'éviter cette zone stratégique-là. Mais il y a de l'investissement davantage pour permettre plus de productivité au niveau de ces pipelines-là, quitte même à en construire des nouveaux. Il ne faut pas oublier que ces conséquences-là, des fois, c'est plus long. Pendant qu'on regarde cette image-là, on voit la mer Rouge. Il faut se rappeler qu'il y avait un conflit par proxy au Yémen entre l'Arabie saoudite puis l'Iran. Puis les rebelles houthis avaient attaqué plusieurs dizaines de cargos de marchandises dans la mer Rouge qui avaient affecté justement le canal de Suez. Bien, aujourd'hui, ça fait quand même, ça a commencé en 2023, ces conflits-là. On est à peu près à 70 % de la capacité de transport maritime dans cette zone-là parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à s'aventurer dans ces eaux-là. Donc, ça va être probablement la même chose dans le détroit d'Hormuz. Puis là, ce qui se passe, c'est que si on prend un pas de recul, des zones d'embouteillage stratégiques, bien, c'est pas juste le détroit d'Hormuz. Dans un article du The Economist, on mettait la lumière sur le nombre de canaux, que ce soit le canal de Suez, le canal de Panama, ou des détroits stratégiques, que ce soit à Taïwan, en mer du Sud, en Chine, que ce soit aussi même en Europe, il y a des endroits qui sont stratégiquement vulnérables. Donc, La leçon qu'on peut observer actuellement, c'est qu'on vient de mettre à jour un risque qu'on avait sous-estimé. Et souvent, c'est ça qui a des conséquences à long terme. Des facteurs de risque peu probables, mais lorsqu'elles se matérialisent, le risque est plus permanent qu'on l'imagine, ce qui fait qu'on change la stratégie. Je donnais l'exemple du COVID, bien, c'est la même chose actuellement ici. Donc, ce qui va se passer, probablement, c'est autant les États que les grandes entreprises bien, revoient leur chaîne d'approvisionnement et essaient de se diversifier. Donc, ça va prendre beaucoup d'investissements. Ces tensions-là vont créer quand même un ralentissement, comme on a peut-être vécu en COVID. C'est pas la même chose, mais c'est peut-être un signe qui est à présager si les tensions durent. Mais c'est certain que le coût logistique augmente, le coût de l'assurance augmente. La réalité du just-in-time, ben, il faut se rappeler que des fois, on va avoir plus de sites de logistique différents, plus de frictions, mais pour réduire notre risque d'être tout concentré dans un seul point hyper efficace, parce que si ce point-là ne fonctionne pas, ben là, on est dans un enjeu. Et évidemment, les États, c'est des grands projets qui vont amener les États à manifester leur souveraineté nationale, ce qui va se déployer pendant plusieurs années. Bon, concrètement, on écoute ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? L'important pour nous qui investissons en bourse, c'est toujours de se rappeler qu'on peut essayer de suivre ces thématiques-là, mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours rentable. Il ne faut pas oublier, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les mêmes modèles d'affaires, et souvent, c'est plusieurs décennies. Donc, avant de voir une rentabilité chez certains exemples constructeurs qui pourraient pallier à des besoins, mais à la place, demandons-nous ce que j'ai dans mon portefeuille actuellement, là, sans tout changer. Est-ce que mes compagnies sont assez solides dans un monde où il y aurait peut-être un peu plus d'inflation que prévu? Est-ce qu'ils sont capables d'augmenter leur prix parce qu'ils ont un avantage compétitif, ils dominent leur secteur suffisamment pour se permettre de refiler la facture à d'autres entreprises ou à des consommateurs? Aussi, est-ce que mes entreprises ont une flexibilité opérationnelle? Est-ce qu'ils opèrent dans plusieurs régions pour avoir cette agité-là plutôt que d'être vulnérable dans une seule région? Puis est-ce que mon entreprise, justement, est un leader assez de liquidité pour investir massivement pour s'adapter à l'économie de demain? Donc, les risques qu'on observe actuellement ne peuvent pas nécessairement être prédits. Par contre, les risques qu'on observe actuellement peuvent être mieux absorbés par des sociétés vraiment de qualité qui ont un pouvoir de fixation des prix, qui ont une agilité. Donc, c'est un peu la leçon qu'on peut faire aujourd'hui et penser que s'il y a une résolution du conflit, bien, tout est derrière nous, mais probablement ce qui se passe va causer certains remaniements de la chaîne d'approvisionnement qui auront des impacts sur le long terme. Je vous remercie, puis on se reparle la semaine prochaine.